Tu as gagné ton pari sur l'app Betclic et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire? Grâce au virement instantané Betclic, reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. Disponible seulement sur Betclic. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous êtes sur RMC, il est minuit, tout de suite c'est Église d'aujourd'hui avec Matteo Ghisalberti.
RMC, Église d'aujourd'hui,
Matteo Ghisalberti.
Bonsoir, bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse qui est proposée tous les samedis soirs après l'after foot par le diocèse de Monaco sur RMC. Une émission qui essaye de montrer les mille visages de l'Église d'aujourd'hui. Et ce soir, nous allons montrer un visage qui est en réalité très connu dans l'Église, celui de Fatima, celui des apparitions de Fatima qui ont eu lieu le 13 mai 1917 et les mois suivants. Et pour le faire, je donne la bienvenue à Anna Reich, qui est l'une des responsables du secrétariat mondial, de l'apostolat mondial de Fatima. Bonsoir Anna.
Bonsoir et merci Matteo pour cette invitation d'être avec vous aujourd'hui.
Merci à vous. Je rappelle que vous êtes basé à Fatima, justement cette petite ville qui se trouve un peu au nord de Lisbonne, où en 1917, il y a eu des événements surnaturels très particuliers. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce qui s'est passé cette année-là?
Oui, bien sûr. Alors, en 1917, la Vierge Marie est apparue aux trois petits bergers, Lucie d'Ostantouche et François et Jacinthe Marteau, chez le petit village de Fatima au centre du Portugal. Mm-hmm. Alors, à ce temps-là, Fatima était une petite paroisse rurale au milieu des montagnes et était très inconnue. La première apparition, elle a eu lieu le 13 mai 1917. Au cours de cette année, il y a eu 6 apparitions pendant le mois de mai et d'octobre. Pendant toutes ces apparitions, Notre-Dame a demandé aux petits-enfants de prier le rosaire tous les jours pour obtenir la fin de la guerre, car on s'est trouvé au milieu de la terrible Première Guerre mondiale, pour la conversion des pécheurs et aussi pour la paix dans le monde. Et alors elle a aussi demandé la dévotion à son cœur immaculé, qui était très offensé par les péchés commis par l'humanité. Au cours de ces apparitions, et surtout après, nombreuses personnes se rendent sur ce lieu de Fatima pour y prier. Et alors Fatima s'est transformée dans un grand centre de pèlerinage chrétien, national et international, et était connu en tout le monde.
Et en tout cas, même si ces trois petits bergers, que je rappelle, ils n'avaient même pas ou à peu près 10 ans, donc ils étaient très petits, et ils étaient illettrés, ils ne savaient ni lire ni écrire, parce que leur travail, c'était 1917, c'était celui de s'occuper des moutons de leur famille et de les faire paître dans les champs, justement, de leur village et à Fatima. Et c'est justement un jour dans lequel ces petits enfants étaient en train de faire paître des moutons qui ont eu cette apparition de la Vierge Marie. Mais leur vie, la vie de ces petits enfants, de ces petits bergers, n'a pas été simple après l'apparition de la Vierge Marie, parce qu'ils ont affronté beaucoup d'épreuves, je dirais même avec du courage.
Oui, correct.
Comment expliquez-vous la force de ces enfants?
Oui, alors, au temps des apparitions, comme vous avez dit, Lucie a eu 10 ans seulement, et son cousin François 9 ans, et Jacinthe, la sœur de François, a seulement 7 ans. Et le travail de ces enfants, ce temps-là, c'était d'aider leurs parents en gardant, comme vous avez dit, les troupeaux des moutons. Ils ne savaient pas lire ou écrire, alors ils ne pouvaient pas savoir beaucoup sur l'histoire ou sur la pensée dans le monde qui était au-delà de leur village. Ils ont reçu une éducation chrétienne très simple, comme prévu dans les milieux où ils habitent. C'était les parents qui ont introduit des enfants dans la foi catholique en racontant des histoires bibliques, en enseignant des prières. Mais ils ont aussi offert un exemple vivant de foi engagée dans la famille, la participation à l'Eucharistie tous les dimanches, la prière en famille, la vérité, le respect de tout, la charité et la solidarité envers les pauvres. Alors, ils ont vécu avec cela. Et alors,
allez-y,
ce jour-là, ils ont eu les apparitions et Notre-Dame demande tout de suite aux enfants, est-ce que voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en réparation pour les péchés par lesquels il est enfoncé et pour la conversion des pécheurs? Et il accepte spontané et leur oui, c'est comme le fiat de la Vierge Marie. Et il est confirmé par la Vierge Marie avec une lumière immense qui a pénétré profondément des enfants, les faisant se voir eux-mêmes en Dieu, qui était cette lumière, comme a raconté Lucie. Et alors...
Oui, allez-y, allez-y.
Pardon? Ah. Oui. Alors Notre-Dame leur avait expliqué de la première apparition qu'ils auraient beaucoup à souffrir. Mais les enfants ont accepté cette souffrance comme faisant partie de leur mission, car ils ont aussi reçu l'assurance de Notre-Dame que son cœur immaculé serait toujours avec ils et que Notre-Dame ne les abandonnerait jamais. C'était leur console pendant toutes ces accusations de fraude et les interrogatoires constants qu'ils ont souffert.
Oui, parce que effectivement, je le rappelle un petit peu pour nos auditeurs, on pensait qu'ils étaient en train de mentir. Donc déjà, les parents de ces enfants étaient, enfin, voulaient qu'ils arrêtent de s'attirer des problèmes, des ennuis. Et puis il y a eu même le maire de la commune de laquelle faisait partie Fatima, qui les a emprisonnés. Et ils avaient, encore une fois 7, 9 et 10 ans, donc des choses que maintenant on ne pourrait pas concevoir. Pour finir, d'ailleurs, le 13 août, même si la Vierge Marie leur avait donné un rendez-vous toujours en 1917, parce qu'elle leur avait dit le 13 mai, je vais faire des apparitions, je synthétise, chaque mois. Le 13 du mois à la même heure ici dans un endroit qui s'appelle la Cova d'Airia. Le 13 août, ils n'ont pas pu assister à cette apparition parce qu'ils étaient justement en prison. Et donc la Vierge Marie a apparu quelques jours plus tard, le 19 août 1917. Dans le village où il résidait, à la Justrelle. Et puis, il faut aussi se rappeler qu'ils ont deux des enfants sont morts très jeunes, et alors que Lucie est devenue adulte, est devenue une religieuse, et qui est décédée dans les années 2000. Donc, ils ont supporté aussi des souffrances physiques, ces enfants.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et seulement, surtout, Jacinthe, elle a souffert beaucoup pendant l'hôpital, avant son mort.
Oui, et qui est venue quand elle avait 10 ans.
Oui, c'est correct.
Et parce que deux ans après, les apparitions est décédé le petit François Marteau, et puis l'année suivante sa sœur, donc Jacinthe Marteau, qui est décédée d'ailleurs toute seule à Lisbonne. Donc elle a accepté aussi cette souffrance que pour une enfant est aussi très forte.
Oui, c'est vrai. Quand on a levé Jacinthe à l'hôpital à Lisbonne, elle déjà sait qu'elle va mourir seule parce que Notre-Dame lui a dit cela. Notre-Dame a demandé à Jacinthe si Jacinthe veut souffrir aussi cela, de mourir seule à l'hôpital après beaucoup de souffrances pour donner, pour faire ce sacrifice pour les pécheurs. Et Jacinthe a dit que oui, elle veut faire cela.
Et d'ailleurs, pour aussi aider quand même un peu les enfants à faire en sorte qu'on arrête de les considérer des menteurs, la Vierge Marie a promis un miracle qu'on a défini plus tard, le miracle du soleil, et qui a été vu par des milliers de personnes le 13 octobre 1917. De quoi s'agit-il ?
Oui, alors, le 13 octobre 1917, il y a eu une grande foule de pèlerins et de courriers. On estime qu'environ de 50 à 70 000 personnes qui se sont rassemblées au lieu des apparitions, car Notre-Dame a promis déjà en juillet de cette année de faire un miracle ce jour-là, le 13 octobre, pour faire tout le monde croire dans les apparitions. Et alors, ce jour-là, un peu avant midi, les trois voyants arrivent sur le site et Lucie annonce que la dame arrive. pendant cette apparition, seulement, elle était seulement vue par les trois enfants. Notre-Dame s'est présentée comme Notre-Dame du Rosaire et elle a aussi demandé la conversion du pécheur. Et alors que la Vierge était en train de se lever vers le ciel à la fin de l'apparition, selon les voyants, la pluie s'arrête et le soleil sort des nuages. Il y a des milliers de personnes présentes qui ont confirmé avoir vu le soleil subir des différentes transformations, d'acquérir des multiples couleurs, de se tourner dans le ciel et puis de foncer sur la terre, avant de reprendre sa place dans le ciel, encore une fois. Alors, beaucoup de gens, ils ont pensé que cela était la fin du monde et qu'ils se sont mis en genoux, ils ont commencé à prier et des personnes se sont converties ce jour-là car ils ont vu ce miracle de la danse du soleil, comme elle était connue plus tard. Aussi, beaucoup de journalistes, il était un grand nombre d'articles de presse qui étaient publiés sur ce sujet, sur cette danse du soleil, avec de nombreux courriers des lecteurs et des testimoniens décrivant ce qu'ils ont vu ce jour-là.
Donc, d'ailleurs, une partie des journalistes écrivaient pour des journaux absolument opposés à l'Église, anticléricaux. Et donc, ils ont témoigné eux-mêmes qu'ils ont vu quelque chose qui n'était pas, qui était surnaturel.
Oui, c'est ça. Toutes les apparitions étaient sur un ambiance très anticlérical à ce temps-là, en Portugal. Et il y a beaucoup de personnes qui sont venues cette jour-là parce que seulement pour dire après que rien s'est passé. Mais beaucoup de gens, ils doivent écrire après, non, il y a quelque chose qui s'est passé parce que j'ai vu le soleil danser.
Oui, et d'ailleurs, parmi les messages que la Vierge Marie a livrés aux enfants, il y en a un aussi particulier et très précis sur la Russie. On a demandé que le pape fasse quelque chose pour la Russie, n'est-ce pas?
Oui, Notre-Dame a demandé la conversion de la Russie. Mais avec Russie, Notre-Dame veut parler de la conversion du monde, de tous les mâles, de tous les pécheurs dans le monde.
Oui, parce qu'on se rappelle que d'ailleurs, en cette période-là, aux alentours de 1917, c'était aussi l'époque de la révolution d'octobre en Russie. Et justement, la Vierge Marie avait dit qu'il fallait cette conversion. Il fallait d'ailleurs consacrer la Russie au cœur immaculé, à son cœur immaculé, au cœur immaculé de Marie, pour éviter d'autres guerres, qui malheureusement, après, on les a eues, parce qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Je voudrais, avant de conclure, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps encore à notre disposition, malheureusement. Parlez aussi de votre organisation, donc l'Apostolat mondial de Fatima. Quelle est son activité?
Alors, l'Apostolat mondial de Fatima est une association publique internationale de fidèles approuvée par son siège. Elle a été créée aux États-Unis et s'appelait tout d'abord l'Armée bleue de Notre-Dame de Fatima. Mais comme elle répondit rapidement dans le monde, elle devient un apostolat international, groupant des millions de membres et des centres nationaux des divers pays sous le nom de l'apostolat mondial de Fatima. Alors, notre but général est la promotion de l'enseignement authentique de l'Église catholique par la promotion du message de Notre-Dame donné à Fatima, ainsi comme la promotion du bien commun par la diffusion de ce message, en donnant une réponse aux demandes de Notre-Dame. Aujourd'hui, l'apostolat mondial de Fatima est actif dans 100 nations, plus ou moins, et ça croît parce que le message de Fatima continue à être crucial pour la construction d'un monde meilleur.
D'ailleurs, à Fatima, il y a aussi un morceau du mur de Berlin qui montre qu'effectivement, comme la Vierge Marie avait parlé du fait qu'il fallait éviter que la Russie se convertisse pour qu'elle arrête de répandre ses erreurs, elle avait dit la Vierge Marie, dans le monde entier. Et parmi ces erreurs, il y a eu aussi la guerre froide, naturellement, qui s'est terminée, justement, grosso modo, avec la chute du mur de Berlin. Et c'est pour ça qu'il y a une preuve très, très précise à Fatima. Si on veut recevoir des informations ou préparer aussi un pèlerinage, par exemple, à Fatima, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, vous pouvez visiter notre bureau, le secrétariat international de l'apostolat mondial de Fatima, chez notre maison, Hôtel Domus Pacis, qui qui fonctionne aussi comme le siège international de notre mouvement. Mm-hmm. Notre maison se trouve derrière la basilique de Notre-Dame du Rosaire, alors elle est très très proche du sanctuaire. Et alors pour tous ceux qui viennent à Fatima, je vous invite à tout à nous visiter. Et vous pouvez aussi visiter notre page web worldfatima.com qui est disponible en 6 langues différentes avec beaucoup d'informations et de nouveautés, incluant aussi la langue française, bien sûr.
Donc, tout est, si vous voulez répéter encore une fois votre adresse.
C'est World Fatima, World comme le monde, worldfatima.com.
.com. Et là-bas, vous trouverez toutes les informations sur l'apostolat international de Fatima. Et puis, naturellement, nos auditeurs peuvent aller sur le site du sanctuaire de Fatima, j'imagine aussi.
Bien sûr.
Bien. Merci beaucoup, Anna Reich. Je rappelle que vous êtes l'une des responsables de l'apostolat international de Fatima, une association publique de fidèles reconnue par le Vatican, dont la mission est celle de faire connaître le message de Fatima. Merci à tous les auditeurs. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site et l'application de RMC. Merci aussi aux techniciens Sylvain et Vincent qui sont en régie. Et je vous souhaite une bonne nuit et que Dieu vous bénisse.
C'était Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Ghisalberti, à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr. Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Bonjour, c'est Mathieu Rouault.
RMC, la matinale week-end.
On se retrouve tous les samedis, tous les dimanches sur RMC pour la matinale week-end. L'info, le sport, toutes les demi-heures, nos invités au plus près de l'actu, mais aussi la météo, la conso, l'IMO, mieux manger avec Perico. On vous attend au 32-16 entre 6h30 et 9h30. Le réflexe info, c'est la matinale week-end RMC. Alors à tout à l'heure.
La matinale week-end sur RMC avec VVF. VVF, des vacances sport et nature et de belles rencontres pour partager bien plus que des vacances. VVF, des vacances en famille.
Salut, c'est Benoît Boutron sur RMC. Est-ce que ça vous plairait d'assister à un moment d'histoire ? Venez au stade Charletti le 8 juin, RMC lance le record du monde de course. 350 km à courir en 24 heures par 144 coureurs. Assistez tout le week-end aux émissions d'RMC, rencontrez les 24 champions stars du running qui nous aident dans cette tentative. Beaucoup de surprises, animations et de nombreux cadeaux à gagner. Et si vous souhaitez être acteur du record du monde RMC, contactez-nous par mail à l'adresse record@rmc.fr.
Entrée gratuite pendant toute la durée de la course. Toutes les infos sont à retrouver dans le podcast RMC Running.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Coucou ! Au revoir, président !
Je suis sûr, je veux que Kylian reste. Certain.
Qu'est-ce que tu sous-entends ?
Écoute. Je veux pas le cacher.
Il n'y a pas de tension, hein. Tranquille.
Au revoir, président.
Jamais de vous faire quelque chose contre Clap.
Et me regarde.
Pour moi, le meilleur joueur au monde, c'est Kylian.
Vous pensez ? Moi, je pense pas. C'est mon avis.
Au revoir, président.
Il y a un an en arrière, je pensais même pas être ici devant vous.
Lui, c'est ma famille.
Moi, tu me parles pas d'âge.
Aujourd'hui, un joueur. Je veux protéger.
Et moi, j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé ?
Nous, on veut que Kylian reste.
Mmh. Question suivante ?
Je suis content. Très content.
Au revoir.
Voilà. C'est une information que tout le monde connaissait depuis 3 mois. Et pourtant, il arrive à en faire un événement. Incroyable, hein, Kylian. Hier soir, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé a officialisé son départ donc du Paris Saint-Germain. Une vidéo de 3 minutes, face caméra, où il dit tout le bien qu'il pense du PSG. Des remerciements, évidemment, sauf pour son président Nasser Al-Khelaifi. Un plan de com' maîtrisé et une annonce dans l'urgence tout de même, alors qu'il disputera dimanche son dernier match au Parc des Princes. Ce sera face à Toulouse. La musique qui fout les jetons et cette question. Kylian Mbappé a-t-il réussi ses adieux ? Oui ou non ? Christophe Cessieux.
Mitigé.
Marie Martineau.
Plutôt oui.
Pascal Duprat.
Plutôt non.
Olivier Giraud.
Oui.
Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, suiveur du Paris Saint-Germain, Arthur Perrault. Bonjour Arthur.
Salut les GG, bonjour à tous.
Bon, en tout cas, Kylian Mbappé a voulu soigner la sortie.
Oui, 20h hier soir, le moment choisi par Kylian Mbappé pour publier cette fameuse vidéo sur son compte X, ex-Twitter. Il apparaît face caméra avec un t-shirt rouge et le visage fermé.
Salut à tous, c'est Kylian. Voilà, je voulais m'adresser à vous. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Et donc, je voulais vous annoncer à tous que c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l'un des meilleurs du monde.
Après avoir annoncé son départ à ses dirigeants le 15 février dernier, cette fois l'attaquant le fait au grand public, non sans nostalgie.
C'est difficile, difficile. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays, la France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu. Mais je pense que j'avais besoin de ça, un nouveau challenge après cette année. C'est difficile et bien sûr, il y a des gens que je voudrais remercier par-dessus tout, c'est les supporters. Je sais que je suis pas le joueur le plus démonstratif, j'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour que vous m'avez donné pendant 7 ans, mais j'ai jamais voulu tricher, j'ai toujours voulu être performant.
L'attaquant remercie ses anciens entraîneurs, coéquipiers, directeurs sportifs. Aucun mot pour le président du club Nasser Al-Khelaifi. Dans la foulée de cette annonce, Kylian Mbappé se rend au Parc des Princes où se tient un barbecue organisé par le collectif Ultra Paris, principal groupe de supporters. Devant 300 de ses membres, il tient un bref discours à côté de son frère. Il explique que les gens ne réalisent pas trop ce que cela fait de jouer au PSG. Pendant 7 ans, il a eu la chance de savourer chaque instant. Avant de conclure, je le cite, « Je voudrais vous dire merci et bonne chance. Vous souhaitez le meilleur pour tout ce qui va arriver. Qui sait, on va peut-être se revoir un jour, mais en tout cas, merci beaucoup. Kylian Mbappé a quitté le stade devant quelques fumigènes allumés par des fans. Dimanche, le Parc des Princes a prévu un dernier tifo en hommage au numéro 7 parisien.
Merci beaucoup Arthur Perrault pour toutes ces précisions. Tu peux rester avec nous pour ce débat. Kylian Mbappé a-t-il réussi ses adieux? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Christophe Cessieux, pourquoi mitigé?
Alors, sur la forme qu'ils ont pris hier soir, on peut dire que c'est des adieux réussis. Le message était à la fois très professionnel, en même temps touchant. Il n'a pas oublié grand monde, sauf le président. Ça a été quand même une surprise pour moi. Je pensais qu'ils avaient gardé quand même un certain rapport. On voit que finalement, ce n'est pas le cas. Je me demande comment va réagir Nasser à cette histoire. Il a remercié tout son petit monde, ses entraîneurs, ses coéquipiers, tout ça. Après, c'est vrai que cette sortie, on aurait aimé la voir plus tôt. Ça fait des mois qu'il nous mène en bateau alors qu'il avait déjà pris sa décision. Je pense que s'il l'avait fait plus tôt, il se serait sauvé une partie de la saison. Mais là, ça a tellement pesé sur ses épaules pendant des mois et des mois, eh bien que sa sortie en message, elle est réussie, mais sa sortie sur le terrain, elle est ratée. Parce que sa sortie sur le terrain, c'était mardi. Ce sera pas la finale de la Coupe de France. Oui, évidemment, il va jouer la finale de la Coupe de France, mais ça ne fera pas oublier, même s'il gagne et qu'il marque 3 buts, ça fera pas oublier sa sortie ratée sur le terrain. Son dernier grand match avec le PSG, c'était mardi, c'était l'élimination, et il n'a pas été à l'auteur de ce qu'on attendait de lui. Voilà, c'est à l'image un peu de la carrière de Mbappé au PSG. Réussi. Mais pas immense et finalement assez frustrante. Moi j'ai okay. été frustré
et cette fin de saison. Ok, la vidéo, le plan de com, ça c'est bien réalisé, mais t'es déçu
ça,
par la fin
faire,
de saison.
Ça il sait faire, c'est un vrai expert.
Je comprends tout à fait ce que dit Christophe, je le partage pour la plupart de ce qu'il a dit. En revanche, j'essaie de me placer du côté de Mbappé. Et bien sûr que ses adieux sont réussis. Il a réussi le tour de passe de dire au revoir dans un premier temps. Voilà, là c'est le passage un peu tristoun et c'est fini. Je ferme la porte sans le mélanger avec la suite qui doit être une vraie réussite. Il faut qu'il y ait de l'entrain, il faut qu'au niveau de sa com, ça pulse et tout ça. Donc il a quand même réussi à scinder les deux. Je trouve que c'est plutôt classe. Il s'en va de ce club. La réussite économique de Kylian Mbappé sur cette opération là est juste dinguissime. Il va pouvoir signer avec le club de son choix en arrivant en ne coûtant absolument pas un centime. C'est juste jamais vu, c'était dingue pour un des trois meilleurs ou des trois plus grands footballeurs de tous les temps, en étant certainement un des plus jeunes. Quel quelle réussite vraiment. Si on se place de son côté à lui, je trouve qu'il y a quand même vraiment un job. Il a une équipe qui doit le suivre, qui est assez incroyable pour réussir ce tour de force, avoir réussi à manager comme il a voulu les Qataris, en faire ce qu'il avait envie d'en faire. Enfin, si on place de son point de vue une dernière fois, c'est vraiment grand, quoi.
C'est, et c'est la première fois qu'une star du Paris Saint-Germain version Qatari arrive à son prime à quitter le club. Donc c'est vrai qu'en ce sens, tu as raison. Pascal Duprat.
Donc moi j'ai répondu non, tout simplement parce que j'aime mon sport, le football, j'aime le championnat de France. Je ne connais que lui, donc c'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup. Mais il a réussi le tour de force, et vous pouvez demander à mes amis et à mon entourage de me fâcher, de me rendre triste deux fois dans la semaine. Mardi et hier à l'annonce, froide. En fait, sans saveur, pas au niveau du garçon qu'il est. C'est la seule critique que je formule sur ce joueur, sur ce garçon, tant je l'adore. Mais franchement, ça méritait une vraie conf de presse avec les journalistes, pour les respecter, comme il l'a souvent fait, mais pour les respecter. Pour qu'ils soient là, pour qu'ils posent des questions, pour qu'ils nous transmettent, au travers leur savoir, leur écrit, les émotions de Kylian Mbappé. Eh bien, malheureusement, ça sera encore tout pour le Real de Madrid. Parce que, croyez-moi, quand il va annoncer la signature au Real, ça sera pas au travers de ses réseaux sociaux. Ça sera dans les locaux du Real Madrid. Ah oui. Ça sera en grande pompe. On lui posera les questions, les journalistes madrilènes, pardon, lui poseront les questions qu'il souhaitera. Et moi, je trouve que c'est juste pas logique pour le championnat de France. C'est pas au rang du joueur qu'il est. Et par rapport, et là c'est la dernière chose, par rapport à son président, je pense que Kylian Mbappé, il a pris peut-être 1 milliard en 7 ans. Et je suis certain que
un petit merci quand même.
Le président du club, il y est pour quelque chose. Nasser, il y est pour quelque chose. C'est le seul qu'il a oublié. C'est une faute de goût qui n'est pas du niveau du joueur qu'il est.
Le plan de com' que tu n'as pas aimé, sans saveur et sans émotion, c'est ce que tu veux nous dire?
Sans saveur, sans émotion.
Mais ça, mais je suis d'accord avec lui. C'est vrai qu'il conchit les journalistes français quand même avec cette.
Je voulais juste t'allumer. T'as vu? Ça y est, j'ai mis une pièce.
Tu m'as énervé là. Non, mais c'est vrai. Il se cache derrière ses réseaux sociaux. C'est plus facile avec son cadreur qui va pas lui poser une question.
Ouais,
il a appris son texte. Il avait peut-être un prompteur ou non, j'en sais rien. Il a récité son truc. C'était pro, mais effectivement, il y avait pas d'émotion particulière quand même. Tu vois, il y avait pas de.
D'autant qu'il maîtrise bien l'exercice, donc il n'avait pas peur de se fourvoyer.
En plus, ce qui est fou, c'est qu'il sait très bien répondre aux questions. Il aurait très bien pu, voilà, venez poser des questions.
Mais il n'allait peut-être pas inventer des émotions qu'il ne vit pas. Enfin, je veux dire, il n'allait peut-être pas se raconter quelque chose qu'il n'est pas vraiment en train de vivre.
Pour le coup, Marie, il les a inventées, parce qu'il joue bien, hein, il peut faire du ciné, parce que là, il avait vraiment l'air triste, alors. Pour te tordre le cou, est-ce que tu dis?
Ouais,
c'est vrai que c'est comme ça qu'on l'aime aussi, Kylian Mbappé. C'est dans toute cette franchise, cette spontanéité qui manquait peut-être hier, en tout cas pour certains d'entre vous. Olivier Giraud.
Oui, c'est assez marrant, je ne suis pas du tout d'accord avec vous aujourd'hui, mais vraiment pas du tout d'accord. La première chose, c'est déjà, si tu dis qu'il a raté sa sortie au PSG, qui a réussi sa sortie au PSG? Ginola, Paoletta, Valdo,
Paoletta.
Alors donc, Paoletta, c'était, il a mieux réussi sa sortie. Vous vous souvenez ce qu'était le PSG à cette époque-là?
Mais sur les motions,
à un moment, faut arrêter de faire les enfants gâtés aussi. Hein, le PSG fait partie des 4 meilleurs clubs du monde aujourd'hui, et on part comme s'il avait raté sa saison. Non mais les gars, quand même, à un moment,
faut savoir
d'où on part.
Non mais attends, d'où tu pars?
Non, j'ai pas dit ça. Toi, t'as dit quelque chose. T'as dit que il a son départ aurait dû faire d'une meilleure manière et que son arrivée au Real va être mieux faite que son départ. C'est normal. La communication pour un départ et pour une arrivée, elle n'a rien à voir.
Non mais c'est pas l'enterrement le départ.
Quand tu arrives au PSG, Olivier, quand tu signes dans un club, heureusement que tu le fais en grande pompe. Quand tu pars d'un
club, tu pars d'un club comme celui-ci, alors que tu es la star.
Tu ne le fais pas comme si c'était la joie non plus. C'est pas la joie.
C'est pas la joie, et puis c'était attendu depuis
que Kylian Mbappé s'en aille. Un truc qu'il faut vraiment qu'on fasse attention. L'époque de Platini et Vendroux, elle est terminée. Ce truc où le sportif est proche du journaliste, il y a des confidences. On était à la réunion de l'UJ. On était à la réunion de l'UJ SF. Là, on ne va pas parler que de Kylian Mbappé. se dire que la nouvelle génération va vraiment se rendre compte que maintenant leur manière de communiquer a changé.
Ouais, leur appartient.
A changé. Et il faut s'y préparer.
Et en même temps, ils se plaignent. En même temps, ils se plaignent quand ils se font égratigner par la presse.
Mais quand tu n'as aucun rapport entre le sportif et les... ne t'étonne pas. Plus tu vas les fracasser. Et moi,
il parle plus, Olivier.
Ça veut dire que tu peux pas les fracasser.
Non, je suis pas d'accord avec vous. Il parle quand il le souhaite, d'accord. Quand il en off,
sur les réseaux
quand il faut glisser hein, des bonnes potes bananes à leur coach, par exemple, ils sont là, ils sont bons.
Tu sais, j'essaye le plus possible de regarder cette nouvelle génération, comment elle fonctionne. Évidemment que si on part sur nos principes à nous, ils font tout mal. Aujourd'hui, ce qu'il a réalisé hier, pas pour notre génération, parle à ceux qui sont plus jeunes. C'est une masterclass.
Mais bien sûr.
C'est une masterclass de communication. Elle nous fait nous poser la question si demain, il ne va pas y avoir des très grandes agences, parce que lui, il est capable de se la payer tout seul, cette agence. C'est-à-dire que ce qu'il a fait hier, une chaîne de télé ne ferait pas mieux. Une chaîne de télé ne ferait pas mieux. Il est capable de le faire tout seul, de gérer sa communication tout seul. Et vous verrez ce qui va arriver. C'est que
comme le président de la République, il fait des conférences de presse et de temps en temps il fait des grands discours.
La masterclass,
il fait des grands
discours.
Tu verras tous les joueurs pour le président de la République. Ça va être magnifique, ça va être super la com dans les temps qui viennent.
RMC, les grandes gueules du sport. Tout RMC en podcast
sur l'appli RMC.
Tous les week-ends, de midi à 13h, c'est les Paris RMC.
Conseils, pronostics, meilleures cotes, préparez vos paris sportifs du week-end avec la Dream Team Sport RMC.
Les Paris RMC, le rendez-vous des parieurs, tous les samedis et dimanches, midi 13h, avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC présente la 15e édition des trophées PME RMC.
Le premier concours des PME de France.
Vous dirigez une PME ? Inscrivez-la dès maintenant sur trophées-pme-rmc.com.
Gagnez 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC. Les trophées PME RMC.
Ensemble, bougeons-nous.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, les grandes gueules du sport.
De retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi. À partir de 10h, la polémique Joule. Forcément, on s'en empare dans les grandes gueules du sport. Les symboles des Jeux Olympiques doivent-ils appartenir aux sportifs? Et là, vous allez évidemment nous régaler, car ce sera un magnifique 2 contre 2. C'est à partir de 10h. Mais restons sur cette vidéo de Kylian Mbappé. A-t-il réussi ses adieux? C'est notre débat, le 32-16 supporters parisiens. On vous attend évidemment avant d'accueillir Florent Gautreau, un ami de l'after qui veut intervenir sur ce débat. Arthur Perrault, on discute il y a quelques instants avec Pascal, avec Olivier, de la forme de cette communication de Kylian Mbappé. Est-ce que tout était soigneusement préparé?
Alors, d'abord, en termes de timing, les possibilités n'étaient pas ultra nombreuses. On rappelle, le Paris Saint-Germain vient d'être éliminé en demi-finale de Ligue des Champions. La finale était prévue début juin. Là, il y a la finale de la Coupe de France, comme vous le savez, qui arrive le 25 mai. Ensuite, il y a le rassemblement pour l'Euro. Donc, peut-être que l'échec en Coupe d'Europe a précipité tout cela et le fait que cette vidéo soit publiée hier soir. Après, pour parler de la communication, et Olivier, tu viens de démarrer là-dessus, Kylian Mbappé a maintenant des gens qui travaillent pour lui en termes de communication. Il a sa propre agence de communication. On sait que sa mère chapeaute tout cela, qu'il a une équipe qui est en train de le suivre H24 dans tous les stades de France et d'Europe, parce qu'il y a un documentaire sur lui qui va sortir. Et d'ailleurs, hier, au Parc des Princes, quand il a été voir les supporters, cette équipe de communication était là. Et c'est cette équipe qui a géré cette vidéo.
Mais c'est hyper
logique. C'est dire à quel point tout est minutieusement anticipé, préparé par ceux qui l'entourent.
Tout est un business. Si tu racontes tout à des journalistes et que tu leur donnes déjà tous tes ressentis et ta façon de voir les choses, bien forcément, tu ne pourras plus le vendre derrière. Là, on va tous attendre avec impatience ce docu parce qu'on aura enfin le sel et la véracité dont vous parlez, qu'il n'a pas mis dans cette allocution officielle parce qu'il le garde pour après.
On regardera les meilleurs morceaux de 2 minutes sur Internet, ça suffira, je pense.
Mais parfois, ça peut manquer de naturel. Et c'est ce que disaient certaines GG. Florent Gautreau, un ami de l'after, est avec nous. Salut Florent.
Salut Jean-Christophe, salut à tous.
Salut Flo.
Mbappé a-t-il réussi ses adieux?
Bah non, pas du tout. Hein. Pour moi, je suis plutôt effectivement dans la team Pascal Duprat. Enfin, je vous ai écouté, mais moi, si tu veux, si c'est ça le foot 2.0, moi ça m'intéresse pas, parce que t'as envie de communion et on te sort de la communication. Donc en gros, t'as parlé, j'ai entendu des noms, Rai sur le terrain, les larmes, Di Maria. Tu te rends compte que Di Maria, qui était au PSG il y a très peu de temps, qui a pas du tout l'histoire de Mbappé en France, il a pleuré lors de son dernier but, les supporters étaient émus. Tu as Pastore qui était dans les tribunes du Barça là pour le match de Ligue des Champions. Il y a plus d'émotion entre les supporters et Pastore qu'entre les supporters et Mbappé. Ce que Mbappé a pas compris, à mon avis, on sent cette communication là, et c'est à nouveau une preuve un peu de son individualisme, de sa façon de fonctionner, qui est une façon très très nouvelle. Il est très intelligent, il va sans doute réussir sa carrière, mais il y a un truc qu'il n'a pas compris, c'est que pour gagner le cœur des supporters, en fait, ça suffit pas d'aller faire une visio mal éclairée et un barbecue avec les supporters. C'est pas comme ça que tu vas gagner leur cœur. C'est en te mettant le cul par terre dans les matchs importants, ce qu'il a pas fait en Ligue des Champions, et ce que Vinicius a fait avec le Real, par exemple, et ce qu'il a montré sur le terrain. Tout ce que tu feras sur le terrain, les signes d'amour que tu montreras à la fin des matchs, et d'ailleurs dans cette vidéo, je sais pas si vous avez remarqué, mais à plusieurs reprises, il s'excuse de ne pas être suffisamment chaleureux, de ne pas être toujours en empathie. Il y a deux ou trois fois dans
exactement,
la vidéo,
il y a des
mais quoi, j'ai pas su montrer
mais
ça.
C'est empreinte, mais ça, je trouve que c'est empreinte de vérité. Il ne va pas s'inventer le fait d'être capable de ressentir ou de générer de l'émotion à ce moment-là.
Je suis d'accord. Mais donc la question,
eh ben, y a plein je suis d'accord. Non,
la question étant, est-ce qu'il a réussi ses adieux? Malheureusement, Mbappé comme Deschamps avec les Bleus. Si le jeu des Bleus nous plaît pas. Mais si ça gagne, ça passe. Si ça gagne pas, plus aucun intérêt. Mbappé, c'est un peu pareil. Les stats, ok, c'est magnifique. C'est un joueur exceptionnel, très bien. Mais si tu me parles d'émotion pour savoir s'il a réussi ses adieux et si les supporters vont garder un souvenir ému, ben non, ce sera pas le cas. Parce que là encore, au moment où tu attends de l'émotion, du partage, de la communion, il te sort une vidéo à distance, chez lui, devant la bibliothèque, dans le salon, en t-shirt, en te disant, ben voilà, j'ai peut-être pas tout fait bien, mais ça a été un grand moment. Ce club va continuer de m'intéresser.
On prend les paris.
Prends compte la phrase. Ce club va continuer d'intéresser et tu crois qu'il va réussir comme ça, et en gros, avec cette vidéo-là, à faire croire à tout le monde que ça a été un grand moment de sa vie. Pourtant, il y a passé beaucoup de temps. Il est parisien, okay. Il est francilien. Et bah, malgré tout, il aura pas. Moi, pour moi, il n'a pas réussi ses adieux. Parce
et
que
moi, je prends les paris avec vous.
Pascal Duprat.
Je prends les paris avec vous. Observez bien, vous allez tous le faire, notamment les journalistes. Observez bien les premiers matchs de Kylian Mbappé au Real. Et vous verrez que tout d'un coup, il va apprendre à communiquer ses émotions avec le public, avec ses coéquipiers. Vous verrez que ça va,
il va être transformé. Comme il l'a fait quand il est arrivé à Paris. Quand il est arrivé à Paris, c'était le jeune homme sympa qui quittait
c'était
Monaco.
Pas très démonstratif non plus.
Oui, c'était plus frais, c'est ce que jamais, tu veux nous dire.
Oui, mais c'était beaucoup plus
frais. Là, il va travailler sur lui,
moins calculé. C'est dans ses interviews, dans ses conférences de presse, tu avais quand même un fond de sincérité, un fond de vérité que tu n'as quasiment plus aujourd'hui.
Voilà, Christophe,
c'est plutôt
raison
de la spontanéité qui lui manque, ouais, parce que la sincérité, il en fait preuve.
Rapidement,
Pascal, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec Pascal et Christophe sur un point. Et vraiment, moi j'ai adoré, je l'ai défendu longtemps. Là, je le critique très fortement parce qu'il m'a déçu énormément sportivement. Hein. Je oubliais même tout le problème contractuel et de communication. Et c'est terrible parce que ce qu'il a perdu, même dans le jeu, en explosivité, en spontanéité, eh ben j'ai l'impression qu'il le perd aussi un peu là aujourd'hui en termes de communication. C'est-à-dire que le Mbappé, tu le mets devant une salle de journalistes, tu le mets dans un 20h sur une grande chaîne ou sur BFM TV, il va être excellent. T'as envie de lui dire, mais Kylian, t'es excellent. C'est ce que Luis Enrique d'ailleurs lui a dit. Ne fais pas la tête parce que je te mets 9 versus
oui,
à gauche. Tu es excellent, tu vas y arriver.
Ah, il serait excellent au travers du prisme de mecs comme toi ou de gens comme nous qui sommes là et qui essayons de décrypter ce qui se passe, mais pas forcément aux yeux des gens et qui l'ont envie de toucher.
Il est franchement 10 fois meilleur en conférence de presse quand il répond à des journalistes. Mmh. Et ce que disait Flo est exact.
Bah, vous savez quoi,
souvent, il nous régale.
RMC, les grandes gueules du sport. RMC.fr et appli RMC.
RMC en direct, partout, tout le temps.
Sur RMC, le dimanche de 19 à 20h, c'est Bartoli Time.
Une heure d'info et de débat sport pour revenir sur les événements marquants de la semaine.
Avec la Dream Team Sport RMC et les meilleurs invités.
RMC Bartoli Time, RMC ce soir, 19h, 20h.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Mardi 21 mai, au Golf Park Robert Hersant, c'est le Tea Break avec RMC. Une journée caritative historique avec la présence de médaillés olympiques. Au programme, une compétition amicale de golf, des enchères caritatives d'objets de sport mythiques et une voiture à gagner avec un trou en un. Le Tea Break, mardi 21 mai avec RMC. En ce moment, envoyez roue par SMS au 732-16 et si vous êtes sélectionné, gagnez 3000 euros sur RMC.
Et pourquoi envoyer roue et pas argent par exemple?
Parce que si vous êtes joueur, vous pouvez remettre vos gains en jeu, faire tourner la roue RMC et gagner 20 000 euros.
Un gagnant par jour.
Toute cette semaine,
RMC vous rince. Pour jouer, écoutez bien RMC, dès que vous entendez.
Envoyez roue par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Roue au 732-16.
Sur RMC, la roue finit toujours par tourner.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff, RMC, le bras de fer GG.
On m'annonce Mission Impossible, le retour, avec Daniel Craig, avec Tom Cruise et Brad Pitt.
Bonjour, c'est Zizou, je vous embrasse à tous.
Et là, j'arrive, c'est Danny Boone.
C'est Jules. Ah ben voilà, c'est Jules, vient de faire son signe actuellement, avec la casquette en arrière. Jules qui allume actuellement le chaudron.
C'est un truc de fou, c'est magique, pour moi c'est un honneur.
Là, je peux plus vous défendre, hein, je suis désolé, hein, mais c'est pas possible.
Merci la zone. On m'appelle l'OVNI.
Un très bon moment dans Rotten sans flamme avec Jean-Louis Tour et Rotten sans flamme et Jérôme Rotten qui ont dû donc commenter cette arrivée de Jules sur le port de Marseille. Il n'a pas embrasé que le chaudron, hein, il a également enflammé les débats. Mercredi, donc, le rappeur Jules a donc été choisi pour allumer le chaudron olympique à l'occasion de l'arrivée de la flamme à Marseille. Un secret bien gardé, c'est vrai, par les organisateurs des Jeux Olympiques, mais un choix qui a créé la polémique. Depuis mercredi, deux camps s'affrontent. Ceux qui estiment que ce rôle symbolique doit être réservé aux sportifs, limite sanctuarisée, les autres qui saluent le choix d'une personnalité importante de Marseille et surtout représentative de la jeunesse. Les symboles des JO doivent-ils appartenir aux sportifs? Dans le coin gauche, la team oui. Pascal Duprat, Christophe Cessieux. Dans le coin droit,
les boomers, les team boomers.
La team non. La team non et la team olympique, hein, bizarrement. Hey. C'est Olivier vrai. Giraud.
Ils ont aucun respect pour les sportifs,
Marie Martineau.
Ils ont aucun respect pour les sportifs. Oh.
Vous allez pouvoir vous écharper dans quelques instants, mais auparavant, accueillons Morgane Maury. Salut Morgane.
Bonjour à tous.
Qui était présent à Marseille mercredi. Morgane, une chose est sûre, ce choix de Jules n'a laissé personne indifférent.
Ouais, mercredi, 19h40, la musique s'arrête. Jules lève sa capuche, dévoile son visage et enflamme le chaudron.
Ça va mettre la tête au cas.
Le rappeur du quartier de Saint-Jean-du-Désert dans le 12e arrondissement de Marseille joue à domicile sur le Vieux-Port. 160 000 personnes enthousiastes. Éléonore a accompagné la flamme sur le Bélème. Elle approuve.
Jules, c'était quand même incroyable. Jules, on l'a vu passer à côté de nous. En plus, il nous a salué. Enfin, c'était incroyable. Jules, c'est la génération. C'est ce qu'on écoute, nous. Donc, incroyable, incroyable.
Fin de la cérémonie, Benoît Payan, le maire de Marseille, passe devant la foule. Il mime le geste du rappeur, les lettres J, U et L. On lui demande si Jules, c'est mieux que Zinedine Zidane.
Mais Jules, la question c'est pas de savoir si c'est mieux que Zidane, pas mieux que Zidane. Vous avez vu l'effervescence. C'est de toute façon deux Marseillais qui aiment leur ville, qui sont fans de sport, fans de football. La flamme, parce que l'Olympisme, c'est bien sûr les valeurs du sport, mais ça dépasse tout ça. C'est des valeurs de fraternité et d'humanité.
Gabriel Attal, le Premier ministre, tweet « Le J, c'est le S, la flamme est arrivée. Le S, explication, c'est le sang, la famille. » Voilà, une communication critiquée, un choix peut-être maladroit pour Renaud Muselier, le président du Conseil régional de Provence-Côte d'Azur, sur France Info.
Je pense que c'est un peu gâché la fête, en fait, cette histoire. Parce que Jules a largement sa place pour porter la flamme. C'est assez facile. Il rend hommage à la zone. Il rend pas hommage aux Jeux Olympiques. Il rend pas hommage à la France. Donc oui, c'est un exceptionnel
vous, ouais.
Chanteur.
Ouais.
Un exceptionnel chanteur, mais c'est pas sa place.
Et merci Marseille. Merci les Jeux Olympiques. Hein ? Et merci la zone.
C'est Mickaël Aloisio, directeur général de Paris 2024, qui sera à l'origine de cette idée. Jules n'est pas sportif, ni bien connu hors des frontières françaises. Pour ce rôle hautement symbolique, plusieurs voix montent. Pourquoi avoir désigné un chanteur à la place d'un champion ? Joseph Mamoun, recordman d'Europe et vice-champion olympique du 3000 mètres steeple en 84 à Los Angeles, dans l'émission Estelle Midi.
Je pense qu'il faut laisser le sport au sport. Effectivement, il y avait peut-être un choix d'un sportif pour allumer cette flamme. On n'invite pas les sportifs au festival de Cannes ou aux victoires de la musique, donc je vois pas pourquoi on inviterait. Enfin, je veux pas les écarter, hein, qu'ils soient présents. Après, ce n'est pas une manifestation marseillaise. On a été de côté beaucoup de sportifs, des médaillés. Je me dis quand même ce COJOP, là, ce comité d'organisation, il marche sur la tête.
Jules est aussi accusé d'avoir encouragé le viol dans une chanson de 2014. Je cite, bah non, sors le cross-volé, cabre même si la roue est voilée, pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais te violer. Fin de citation. Le rappeur aux 4 millions de followers sur Instagram ne s'est pas exprimé, mais peut-être répondrait-il comme dans le tube en bande organisée.
Je suis dans le game en claquette sur vette.
Les folles qui parlent de moi sur le net.
Merci beaucoup, Morgane Maury, pour ce reportage très complet. Vous avez pu avoir les deux opinions, évidemment, sur cette séquence avec Jules qui a tant fait parler. Les symboles des Jeux Olympiques doivent-ils appartenir aux sportifs ? Alors, pour l'instant, c'est oui à 62%, non à 38%. Olivier Giraud, Marie Martineau, vous êtes derrière, vous commencez ce débat et je vous ai vu réagir à ce que venait de nous dire Morgane Maury. Pourquoi non, Marie Martineau ?
Parce que je crois que, justement, le sport est un des derniers endroits où on peut rassembler, où l'idée, c'est de faire en sorte de communier tous ensemble. Et je ne vois pas pourquoi on commencerait à mettre des frontières sur un espèce de précaré réservé aux athlètes. Enfin, ça va, on est déjà très bien lotis. Et donc, je ne vois vraiment pas pourquoi on devrait, comme ça, se dire, le sport, c'est pour les sportifs. Enfin, mais il faut arrêter. Et la culture, c'est pour les gens qui ont eu la chance d'avoir peut-être de la culture à la maison parce qu'ils viennent du CSE++. Enfin, c'est démentiel. Je ne comprends même pas cette polémique. Jules, pour moi, faisait la synthèse justement entre pas mal de générations, parce que même moi qui vais avoir 40 balais, si au début il y a 10 ans je me disais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout, et ben force est de constater que à force de l'entendre, finalement je trouve que c'est relativement ambiançant, et on peut même ne pas forcément juger de la musique ou pas de Jules, on l'aime, on l'aime pas, ce qu'il dit pas. Enfin, le fait est que le mec est l'artiste le plus streamé en France. Il fait 7 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Enfin, donc il est rassembleur, en fait. Donc partant là, ça me va. Et puis Marseille.
C'est assez marrant parce que je pense que c'est Aya Nakamura qui est la plus streamée.
Ah, peut-être. Bah alors, tu vois, alors
ça,
là.
C'est marrant les polémiques parce que ça vient sur Jules, ça vient sur Aya Nakamura. C'est très intéressant.
Il aurait très bien pu rassembler en étant présent, mais sans allumer le chaudron. Ça aurait dû être réservé à un sportif.
Un des 79 voilà. Chaudrons.
Est-ce que je voulais te dire, non, Marie, que tu te trompes de débat.
C'est le chaudron.
Nous ne sommes ni un culte, ni il ne faut pas dire que nous ne sommes pas passionnés de partage, sous prétexte que nous ne sommes pas d'accord avec le fait que ce soit autre qu'un sportif qui allume le chaudron. Bien sûr que le sport rassemble, et ceux qui ne sont pas d'accord, parce que ça fait polémique, donc il y a une partie qui n'est pas d'accord, ils sont aussi d'accord avec nous sur le fait qu'il faut aller dans les écoles, voir les gamins, dans les quartiers, pour véhiculer les bons messages que véhicule le sport.
Marie, si le 26 juillet, tu as Aya Nakamura qui allume la flamme olympique au Stade de France, ou dans la série, tu serais d'accord
c'est
pour okay, ça, toi.
Mais laissez-la tranquille.
Olivier, avec tout le monde, les sportifs n'ont rien à faire dans les jeux, en gros, c'est un peu ça. Ils peuvent en faire partie, mais c'est pas eux.
Tu préférerais Thomas Pesquet peut-être, parce que c'est plus stylé. Non, non, non. Il y a 11 000 porteurs de flammes. Marie, évidemment, le dernier, c'est
les moments les plus importants, c'est-à-dire allumer le chaudron et allumer la flamme olympique.
Non, mais les chaudrons, il y en a plusieurs qui vont être allumés tout au long.
Celui de Marseille était important.
Mais c'est évidemment que le dernier porteur de flamme, ce sera quelqu'un qui représentera le sport. Oui, le dernier, évidemment, mais parce que c'est une question de hiérarchie. Vous voyez bien quand même qu'on vit à une époque où tout est hyper. Tu ne peux plus. Tu dois être anti ou pro. Tu dois être. Tout est clivant. Tu vois. Tu n'as plus le droit à la nuance, quoi. Et moi, je trouvais ça un petit message un peu sympa d'avoir un peu de nuance. Et il n'était pas tout seul, Jules. Il était aussi accompagné. Il me semble bien avoir vu Manodou dans les parages qu'on a largement relayé. Et c'était cool. Je ne vois pas où la polémique se trouve à cet endroit-là.
Ok, elle est ridicule. Pourtant, on a bien compris.
Alors, le seul truc. Alors, je comprends très bien, moi, pour me choquer, il en faut plus que ça. Mais si tu veux, moi, je me suis senti un peu exclu. Parce que ce chanteur, je le connais pas, mis à part son nom. Donc, j'ai demandé à mes enfants, ils m'ont dit un peu qui c'était. J'ai entendu ses chansons, c'est. Mais. Alors évidemment, il rassemble auprès d'un public très jeune. Tu dis 7 millions de streamers, mais c'est quand même la plupart, c'est des moins de 20 ans ou les tout petit peu plus de 20 ans. Il n'y avait pas, je sais pas, un chanteur qui pouvait représenter ou un sportif
qui pourrait représenter, évidemment, moi je trouve que Zidane n'a pas été approché, qui n'a pas dit non, qui pourrait dire que Zidane ne sera pas le dernier porteur de flamme, justement, à ce moment-là.
Pas de polémique, on serait pas en train de faire un sujet, ça. On est
voilà,
tout à fait d'accord avec toi.
Voilà, c'est Christophe. Zidane, pour moi, c'était il avait tout. C'est-à-dire, il représentait Marseille, il représentait la France qui gagne et il représentait la France de 7 à 77 ans. Donc, essayez de globaliser, d'essayer d'embarquer avec toi le plus de gens possible. Là, je suis désolé, Jules, il embarque les gamins. Alors, évidemment, il faut aller chercher les jeunes qui sont pas très intéressés par les Jeux Olympiques. Donc, tu vas les chercher en leur montant leur chanteur préféré.
Est-ce que tu te sens exclu quand il y a des nouveaux sports comme le skate, comme le BMX,
personnellement, je me suis
pas. Tu sais que je fais des émissions, Marie, tous les samedis, où j'interroge tous les sportifs qui vont faire les Jeux Olympiques.
Et
je suis passionné, mais pas du tout. Mais ça n'a aucun rapport.
Bah, c'est la même chose. On parle de trucs, de nouvelles mouvances et de nouveaux sports ou de nouvelles musiques.
Ok, je reprends la main. Les symboles des JO doivent-ils revenir aux sportifs? C'est notre débat. Et forcément, on revient sur cette polémique, Jules, qui a pu voir le jour cette semaine, mercredi, à l'occasion de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Tu es avec Marie, Olivier Giraud. Pour toi, c'est non, ça ne doit pas revenir aux sportifs.
Si, aux sportifs, mais pas que. Ça revient à tout le monde. L'universalisme, il va beaucoup plus loin que ça. Et je trouve que cette polémique, finalement, elle ne devrait même pas avoir lieu. Le sport, ça rassemble. Tout le monde veut en être. Moi, je suis très heureux que ça se passe comme ça, parce que finalement, moi qui ai vécu les 6 ans qui nous amènent finalement à l'épilogue et les Jeux vont arriver, j'ai vu toutes les critiques qu'il y avait autour des Jeux. Est-ce que les Jeux, c'était utile dans un pays? Est-ce que ça rassemble? Eh ben, là, on est en train de voir que les approches, et que c'est en train de rassembler tout le monde, et que tout le monde veut sa photo, tout le monde veut y participer, tout le monde veut être à l'intérieur de ces Jeux. Pour moi, c'est le plus grand événement sportif du monde. Et les sportifs ne sont pas exclus, parce que le moment où la vraie vasque, parce qu'il n'y en a qu'une seule vraie vasque, hein, qu'on soit très très clair, c'est-à-dire que là, exceptionnellement, il y a plusieurs sites, on en a allumé.
Ouais, enfin, là, c'est
quand même une symbolique.
Non, mais la cérémonie d'ouverture de Marseille 2024.
Les amis, ça n'a jamais été aussi ouvert. Il faut reconnaître ce qui a été bien fait. On a eu beaucoup de critiques, mais ce qui a été bien fait, c'est que la flamme olympique, normalement, tu ne peux pas la porter. Tu ne peux même pas la toucher. Eh bien, en France, on a fait ça où n'importe quel... personne peut s'inscrire. Il y a des gens hyper méritants dans la vie qui n'ont rien à voir avec l'Olympisme, qui vont avoir cet honneur de porter la flamme.
Le relais de la flamme, ça n'existe pas.
Non, c'est des sportifs en général. Il y a le relais de la flamme, mais là, c'est vraiment des happy few. Là, on l'a ouvert, tous les départements ont pu s'engager, les départements en France, et le rendre populaire. Le marathon, le truc sacré de l'Olympisme.
Ouvert à tous.
Donc, il faut vraiment qu'on arrive, on arrête ça, parce qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'on l'a ouvert à
tous. Vous payez combien le Cojo tous les deux là?
Mais
je n'y travaille pas. Et ce qui me rassure, c'est que le moment où la vraie vlasque va être allumée, là, ça sera la place qu'aux sportifs, aux spectacles sportifs, et tout le monde sera heureux d'avoir participé.
Pourquoi alors sectoriser, si je vais plus loin dans vos arguments? Pourquoi?
Parce qu'ils ont voulu ouvrir.
Pourquoi?
Ils ont voulu ouvrir.
Mais le nouveau step, les prochains Olympiques, ça sera donc un
artiste. Non, c'est les Français qui ont fait ça. C'était le comité d'organisation. Non, c'est comme la cérémonie d'ouverture. C'est-à-dire que tu as des choix
les symboles, Olivier, puisque tu dis que le dernier à allumer la flamme lors de la cérémonie d'ouverture, ce doit être
imagine la flamme arrivant au Japon pour les Jeux de Tokyo et qu'on aurait découvert que c'était une chanteuse hyper connue au Japon qui avait allumé le premier chaudron quand la flamme arrive sur l'île.
Pour ça aurait choqué personne. Olivier, à Rio en 2016, 12 000 Brésiliens ont porté la flamme. Les porteurs de la flamme devaient résider dans le pays. Ils devaient être recommandés par le grand public comme des héros du quotidien qui représentaient le meilleur du Brésil. Des différences dans leur communauté. C'était pas uniquement des sportifs déjà, tu vois.
Non, mais
c'était
c'est
aussi
génial.
Des gens.
C'est génial.
Je trouve ça très bien.
C'est
juste certains symboles. Plus important que d'autres. Là, c'était le jour où la flamme arrivait.
Heureusement.
C'était l'inclusion de Marseille dans les Jeux. Ça va au-delà de ça. Vous l'avez senti, vous l'avez remarqué. On est quand même à Marseille où il me semble bien qu'au stade, ils ont fait en sorte que ça ne soit jamais écrit Paris, Jeux Olympiques de Paris et tout.
Ça me plaît que le sport soit différent que d'autres milieux. Tu rentreras jamais dans le milieu des artistes. Jamais. Ils sont chez eux, ils sont entre eux.
Le sport, nous sommes différents,
il faut vraiment aller vers cette différence.
C'est
génial. Je pense que tout le monde est d'accord, mais ce que vous faites un peu semblant de ne pas comprendre, c'est ce que vous disent, en tout cas si je résume la synthèse, Pascal et Christophe, c'est de vous dire que... les symboles doivent être réservés aux sportifs. Et vous êtes deux sportifs olympiques. Et c'est vrai que j'ai eu la chance avec...
terrain.
J'ai eu la chance notamment avec Morgane Maury et d'autres d'être à Marseille ce jour-là. Et c'est vrai que des journalistes étrangers ont pu nous demander mais qui c'était? Qui c'était avec la capuche? C'est qui ce Jules?
Les journalistes qui commentaient ont été surpris quand même.
Il y a un devoir aussi de la France de s'exporter et de montrer à l'international qui on est et de mettre en avant des gens que l'on connaît un petit peu partout. Tu vois, c'est ça aussi le truc.
Ouais, mais je pense que tu le résume bien et je pense que c'était certainement aussi un peu l'idée et c'est chouette et de changer les codes, de bouger un peu les lignes. Enfin, on fait un peu, ce sont nos jeux, on se les approprie. Il y a les jeux tels qu'ils sont dans l'imaginaire commun et puis il y a comment nous on les rend nos jeux français, nos jeux à nous. Et ça en fait partie et on doit en être fiers. Je veux dire, on rayonne culturellement et donc c'est chouette d'avoir mis ce mec-là en avant.
Vous êtes très nombreux à intervenir au 32-16. Je vais essayer de prendre Philippe et Bilal. Déjà, Philippe, bonjour. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour à toute l'équipe et bonjour particulier au brillant Christophe Cessieux qui s'occupe de mon sport favori, le cyclisme, même s'il n'en parle pas assez à mon goût.
Ah, mais j'essaye Philippe, mais tu sais, c'est pas facile tous les jours de convaincre Mbappé, le vieux droué. Hein.
Mbappé, pour 90% du temps, c'est...
tu seras soulagé l'année prochaine.
À mon avis, tu dois passer de nombreuses soirées avec Christophe Cessieux qui t'a soufflé cette intervention. Alors Philippe, sur notre débat, est-ce que les symboles des JO doivent appartenir aux sportifs?
Je vais parler en mon nom. Moi, j'ai une 60aine d'années. Je voulais rentrer un peu. J'étais un peu diesel pour rentrer dans les JO. Tu vois, je me dis, je vais regarder. Et là, j'ai cru que j'avais un sketch des inconnus. Je me dis, tiens, je le connais pas, ce sketch. Quand j'ai vu Jules. Putain, mais c'est un cadavre, le mec. C'est n'importe quoi. Que ça soit ouvert aux sportifs et à d'autres. D'accord, mais on prend des gens méritants. On prend des gens brillants. Ah. Là, je me suis dit, à l'étranger, mon sud de la gueule du monde. Ah non, mais Marie, t'as beaucoup parlé. Laisse parler un peu les autres.
Vas-y, Philippe.
Donc, c'est les jeux de l'inclusion, mais moi, ça m'a exclu des jeux, ça. Moi, je me casse. Je suis pas là pour avoir le showbiz minable voilà. C'est pas ma culture, c'est pas mon pays, je me suis pas reconnu. On a le droit de pas se reconnaître. Et c'est des mecs comme nous qui allons regarder les JO, c'est pas les mecs de 20 balais, ils en ont rien à foutre. Hein. Voilà. Donc, je suis hyper déçu, je pense que là, c'est une erreur, c'est de la com à la con, et ça marchera pas. Voilà, c'est dommage.
Eh ben voilà, le coup de gueule de Philippe est passé. J'espère en tout cas que les jeunes vont regarder et que ça peut servir aussi à intéresser notre jeunesse. Hein. Tout de même, Philippe. Bilal veut intervenir également, elle a composé le 32-16. Bonjour Bilal.
Oui, bonjour. Merci de me recevoir.
Bonjour Bilal.
Avec grand plaisir Bilal, ton avis?
Alors moi, ça m'irrite un peu là. J'écoute les grandes gueules depuis ce matin, là. Je suis dans mon bus au travail. Et mon avis alors, c'est que dès que ça touche un peu tout ce qui est banlieue, jeunesse, urbaine, ça dérange certains chroniqueurs, certains journalistes.
Et Philippe aussi, apparemment.
C'est, alors juste ouais. Bilal, et je te laisse intervenir, c'est pas une polémique de journaliste, hein. On a l'impression que, tout le monde a eu son avis sur cette question, mais vas-y, je te laisse poursuivre.
Oui, moi voilà, c'est mon avis. Moi je pense que dès que ça touche tout ce qui est banlieue, tout ce qui est jeunesse, un peu issu des quartiers, ça dérange. Faut pas oublier que le sport français sans ces banlieues ne serait rien du tout. Donc on va pas revenir sur une polémique.
Ouais, mais mettons des sportifs issus des banlieues, des mecs qui sont sortis de la zone et qui sont devenus des stars du sport.
Jules, il réunit tout le monde.
Mais il réunit pas les sportifs. Enfin, oui, sans doute.
Toute communauté écoute du Jules. Moi, même si j'aime pas ce mot communauté, Jules, il rassemble tout le monde. Il arrive à remplir des stades Vélodrome, des stades de France en 3-4 minutes. Il y a des millions de personnes qui sont encore en liste d'attente. Donc pour moi, je pense qu'il est légitime à allumer cette flamme. C'est quelqu'un qui représente tout le monde. Et je vais même rajouter quelque chose. Je pense même que Aya Nakamura est légitime aussi à faire la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Voilà, c'était tout pour moi. Je vais reprendre le travail. Je vous laisse méditer sur ce sujet.
Bon courage.
Aya Nakamura pour allumer.
Je n'avais pas trop le temps. Voilà, c'était mon coup de gueule et j'avais envie de dire ça parce que ça me grattait depuis tout à l'heure.
tu as bien fait de nous appeler et merci de ta fidélité. Et en tout cas, on laisse évidemment la parole aux auditeurs aussi dans cette émission. Donc, on est très heureux d'avoir eu les deux points de vue.
On a vu que ça divisait quand même le pays. Ça divisait les générations, les milieux sociaux. Enfin, si tu es là pour rassembler et qu'en fait, le pays. Et aujourd'hui est super.
Mais c'est figé, le monde dans lequel on vit.